Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Bank avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Si les maladies cardiaques constituent aujourd'hui la première cause de mortalité à l'échelle planétaire, le fardeau que font peser ces affections cardiovasculaires sur la région Afrique est de plus en plus lourd. Hypertension artérielle, AVC, affections coronariennes. On observe conjointement l'augmentation significative des risques associés à l'hygiène de vie, déséquilibre alimentaire, diabète, sédentarité. Les changements de mode de vie favorisent ce risque de développer une maladie non transmissible et simultanément, les facteurs socio-économiques et de développement, pauvreté, malnutrition, insalubrité, continuent d'avoir un impact en ce qui concerne la santé cardiaque en Afrique, avec l'incidence notamment des cardiopathies rhumatismales qui ont souvent pour origine une maladie infantile mal soignée. Et l'autre problématique majeure concerne les conditions de prise en charge comme d'accès aux soins, éloignement des structures spécialisées, manque de personnel formé, insuffisance en termes de plateau technique. Maladies chroniques, chirurgie de pointe, comment améliorer la prise en charge des maladies cardiaques en Afrique subsaharienne? C'est notre sujet du jour dans Priorité Santé. Et les 35e journées européennes de la Société française de cardiologie nous donnent l'occasion de recevoir deux spécialistes originaires d'Afrique de l'Ouest. De la Mauritanie, professeur Khaled Boy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de chirurgie cardiovasculaire au Centre national de cardiologie à Nouakchott et past-président de la Société mauritanienne de cardiologie. Avec nous, les deux coprésidents du groupe de cardiologie tropicale au sein de la Société française de cardiologie. On retrouve le professeur Kouadio Eloge Cramo, bonjour.
Bonjour Caroline.
Directeur général de l'Institut de cardiologie d'Abidjan et aussi past-président des sociétés de cardiologie de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que de celle de Côte d'Ivoire. Et puis, le docteur Jean-Jacques Monsuez, qui est avec nous. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Cardiologue à l'hôpital René Muret de Sevran, en région parisienne, rédacteur en chef du journal de formation continue de la Société française de cardiologie, archive des maladies du cœur et des vaisseaux. Et puis, vos témoignages à notre numéro WhatsApp 33 7 61 18 46 41. En fin d'émission, vous retrouverez la chronique de Noël Kayersi, sexologue dans Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Alors, faire en votre compagnie une sorte d'état des lieux pour comprendre certaines particularités du point de vue de l'incidence des risques d'épidémiologie en matière de santé du cœur, santé des vaisseaux, santé cardiovasculaire sur le continent en Afrique subsaharienne. Et puis pour parler bien sûr aussi de l'accès aux soins, ce qu'il faut renforcer, c'est donc ce qu'on va faire pendant cette émission. Professeur Khaled Boy, si vous voulez bien, chez vous au sein du Centre national de cardiologie de Nouakchott, quelles sont les affections cardiovasculaires que vous prenez en charge le plus fréquemment?
Au Centre national de cardiologie, nous prenons en charge toutes les pathologies cardiovasculaires, que ce soit des pathologies chirurgicales, médicales, adultes et infantiles. Bien sûr, à des niveaux et à des degrés différents. Ce que nous soignons essentiellement, nous soignons tout d'abord l'hypertension artérielle et ses complications, il y en a beaucoup. Vraiment, nous voyons beaucoup d'AVC, beaucoup d'hypertendus, beaucoup de jeunes qui viennent avec de l'hypertension artérielle. Tout ce qui est valvulopathie, ça aussi on voit beaucoup, l'insuffisance cardiaque, on hospitalise beaucoup de patients, des jeunes, surtout des milieux ruraux, et des gens qui ne se savaient pas malades. Mais la nouveauté depuis quelques années, c'est que nous recevons tous les soirs au moins une dizaine d'infarctus. Ne serait-ce que le week-end dernier, nous avons fait au moins une dizaine d'infarctus du myocarde.
Ça veut dire que là, il y a intervention chirurgicale en urgence ?
Non, pas forcément. Ça peut être une angioplastie. Ça peut être après des pontages à distance, mais ça veut dire tout simplement que nous recevons au centre des patients qui ont un infarctus, c'est-à-dire qui ont une douleur, qui ont la vie qui est en danger à cause d'une crise cardiaque, comme on dit de façon générale. Et ça, ce n'était pas connu. Il y a quelques années, nous avons commencé avec la coronarographie et un peu le dépistage des maladies coronaires. On recevait 1 à 2 infarctus par jour, puis 5 à 6. Et là maintenant, surtout les week-ends, ça devient vraiment quelque chose de très, très important.
Professeur Khaled Boy, est-ce que c'est parce qu'il y a davantage d'infarctus ou est-ce que c'est parce que les gens savent tout simplement à qui s'adresser ?
Les deux.
Les deux.
Les deux. Il y a plus d'infarctus, ça c'est sûr, et on en voit de plus en plus de problèmes coronaires, surtout chez les femmes et surtout chez les jeunes. Le plus jeune infarctus que nous avons, c'est 26 ans. On l'a même vu à 21 ans, je pense. Le plus jeune pontage coronaire, il a 31 ans.
Avec des comorbidités ?
Oui, le plus souvent, c'est la sédentarité, un diabète méconnu, une obésité. C'est certainement la malbouffe et le tabac.
Ça veut dire quand on vous entend, on a aussi bien une prise en charge de la maladie chronique que de l'urgence du stade des complications.
Tout à fait. Tout à fait. Et donc, le centre essaie tant bien que mal de faire face à ça, malgré la rareté des moyens. Mais nous fournissons cet effort-là. Peut-être là où nous ne sommes pas encore très bien, c'est dans la prévention. Nous sommes encore sous le feu de l'action. Et...
On va en reparler. Les patients, ils viennent de toute la Mauritanie ?
Oui, c'est le seul centre, malheureusement. Je vous dirais que c'est le seul service de cardiologie dans tout le pays. Oui. Bon, il y a des cardiologues un peu à l'intérieur, mais c'est le seul centre qui fait de la cardiologie en général. Et donc, ça vient, et même de la sous-région, on reçoit un peu aussi de...
On va en reparler justement de cette question cruciale de l'accès aux soins. Professeur Kouadio Eloge Cramo, même question sur les pathologies du cœur les plus fréquentes que vous prenez en charge à l'Institut de cardiologie d'Abidjan.
Donc c'est un peu à l'image de ce que mon collègue a dit. Abidjan, dans le service de médecine qui hospitalise en fait les malades qui ont besoin d'une prise en charge médicale, c'est beaucoup plus l'insuffisance cardiaque aujourd'hui qui est au devant de la scène. Mais à côté de l'insuffisance cardiaque, on a la maladie coronaire, donc à tous les stades, au stade chronique comme au stade aigu. Et aujourd'hui, en tout cas, Abidjan, on fait l'angioplastie primaire. Donc on a une équipe sur place pour pouvoir prendre en charge les urgences coronariennes. Donc, maladie coronaire, insuffisance cardiaque, et comme on l'a dit, dans la porte d'entrée dans l'insuffisance cardiaque, c'est beaucoup plus l'hypertension artérielle, mais il y a aussi les valvulopathies dues à la maladie cardiaque rhumatismale, les angines des enfants maltraités. Donc je dirais qu'aujourd'hui, en Afrique, nous avons le double fardeau, à la fois de ces maladies qui sont des maladies acquises, rhumatisme articulaire aigu, mais aussi des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle et les maladies dégénératives. Donc nous avons que la population, une partie de la population prend de l'âge. Donc on va avoir dans les valvulopathies ce qui est rhumatismal, mais aussi on commence à avoir maintenant les valvulopathies dues à la dégénérescence. Donc nous avons toutes les portes d'entrée, en tout cas pour la maladie valvulopathie chez nous.
Alors, professeur Khaled Boy, votre plateau technique, vous l'avez dit, c'est unique à l'échelle de la Mauritanie ?
C'est le seul centre qui est équipé en matière de cardiologie interventionnelle et de chirurgie cardiaque, au moins en public, il existe des petits centres en privé, mais c'est quelque chose qui est même un peu unique à l'échelle régionale. L'idée, je pense qu'on l'a copié sur la Côte d'Ivoire, ces choses, mais je pense que nous avons fait du bon travail. Et là, nous avons actuellement une structure de 120 lits dédiée uniquement à la cardiologie. Nous avons à peu près plus de 50 cardiologues, 6 chirurgiens, 5 anesthésistes, tout ce beau monde-là travaille ensemble sous une même direction. Nous avons des réunions quotidiennes.
Est-ce qu'ils sortent des fois de cet institut qui est un petit peu la pépite en matière de cardiologie chez vous ? Est-ce qu'ils sortent pour aller faire des opérations foraines ou mobiles, comme on dit, dans des milieux reculés où c'est toujours Nouakchott ?
Malheureusement, non. Pour le moment, non. Ce que nous avons fait, et ça c'était au sein de la Société Mauritanienne de Cardiologie, c'est des campagnes de dépistage, que ce soit des valvulopathies ou des cardiopathies congénitales. On fait ça en milieu rural, mais on ramène les patients au centre de cardiologie et on les traite.
En termes de prévention, est-ce qu'il y a des campagnes nationales de dépistage de l'hypertension artérielle ?
On les fait, mais ce n'est pas quelque chose encore très structuré. Et la prévention globalement, on le sent même dans notre centre, nous sommes sur le point de mettre en place une unité de recherche épidémiologique qui va certainement aider dans ce sens. Mais je pense que la prévention et la recherche sont encore le cousin pauvre de la cardiologie en Mauritanie.
Professeur Kouadio Eloge Cramo, plateau technique chez vous à Abidjan, est-ce qu'il y a des opérations qui peuvent se réaliser chez vous et nulle part ailleurs en Côte d'Ivoire ?
Oui, pour l'heure, oui. puisque c'est le seul centre public qui fait de la cardiologie médicale comme chirurgicale à l'heure actuelle. Donc, pour mémoire, c'est depuis 1976 que ce centre a été ouvert par notre maître, le professeur Edmond Bertrand, avec notre premier président, le président Fouad Boigny. Donc, l'année prochaine, justement, nous allons fêter les cinquantenaires de ce centre-là. Et je voudrais, à ce stade, rendre hommage à professeur Edmond Bertrand, qui a pris sa retraite à Marseille, et puis, bon, de vénérer mémoire notre premier président, Félix Fouad Boigny. Donc, à ce niveau, nous pratiquons la chirurgie cardiaque tant pédiatrique qu'adulte. Mmh. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la maladie coronaire, mais aussi en rythmologie, nous faisons toute l'activité de rythmologie, depuis l'implantation des pacemakers, des défibrillateurs et aussi l'ablation pour ce qui concerne la tachycardie ou alors la fibrillation atriale. Mais autre chose que je voulais dire,
allez-y.
C'est qu'actuellement à Abidjan, enfin en Côte d'Ivoire, il y a un deuxième centre qui va ouvrir bientôt, à Boaké, l'Institut de cardiologie de Boaké, qui est au-dessus en termes de lits, c'est 150 lits.
C'est un centre indépendant ou ça va être dans le cadre de l'hôpital régional?
En fait, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'ils appellent aujourd'hui les hôpitaux régionaux, en tout cas, qui avec des poules d'excellence. Et c'est dans cet esprit qu'aujourd'hui, l'idée est que les populations soient très proches des poules d'excellence en termes de santé. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans ces presses qu'on appelle presses, il y a des cardiologues partout, dans toutes les grandes régions. Nous y avons travaillé, justement Jean-Jacques était là au début. C'est en 2015 que nous avons initié ce gros projet-là, de recruter et de former et de mettre à disposition ces cardiologues partout.
Pour Boaké, c'est un projet ou c'est concret?
C'est concret. L'hôpital est créé, il est question qu'il soit inauguré bientôt. Et travaille à Boaké actuellement plus d'une vingtaine de cardiologues, dont 3 professeurs pour la médecine, et il y a 2 professeurs de chirurgie cardiaque. Donc, c'est des équipes qui existent déjà dans le sein du CHU de Boaké et qui vont maintenant se différencier dans l'institut.
Est-ce que c'est compliqué pour des grands spécialistes d'accepter d'aller à Boaké? Parce que c'est vrai que dans certaines régions, quand on dit qu'il faut aller, comme on dit, en brousse, c'est pas un peu la vie qu'imaginaient certains médecins en faisant 15 ans de médecine. Et donc, ils disent, écoutez, il va peut-être falloir m'aider un peu pour me motiver, pour m'éloigner de la capitale et de son cadre de vie idyllique.
Oui, non, pas du tout. Je vais te dire, je vais vous passer une belle expérience que j'ai vécue, parce que justement, j'ai parlé des formations. En 2015, nous étions à peine 50 cardiologues en Côte d'Ivoire. Et grâce au ministre de l'époque, le ministre Goudou Raymond, nous avons pu recruter des jeunes. Et avec le ministre qui a suivi après, M. Akaolé, on les a affectés. Et les premières affectations, j'ai affecté des gens qui n'avaient jamais quitté Abidjan, à l'intérieur du pays. Ils ne voulaient pas partir. Et je me rappelle, un des professeurs qui avait aussi une de ces cardiologues-là, était venu me voir pour que sa fille ne soit pas affectée. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, il faut que vous donniez l'exemple. Elle est partie. Je ne vais pas donner la ville, sinon on pourra l'identifier. Mais l'année qui a suivi, avec la nouvelle promotion de cardiologue, j'ai souhaité qu'elle revienne à Abidjan. Elle a dit non, je ne veux plus partir, quitter. Donc c'est ça, les gens ont une appréhension. Mais une fois qu'on y a goûté, on ne veut plus partir.
Professeur Cramon, vous co-présidez le groupe de cardiologie tropicale. Qu'est-ce que c'est ce groupe?
C'est un groupe qui existe au sein de la Société française de cardiologie qui réfléchit en particulier aux problématiques cardiovasculaires dans notre espace qu'on appelle l'espace subsaharien, l'espace tropical. Nous avons quand même quelques petites spécificités pour lesquelles nous avons besoin que nos collègues d'ici sachent de quoi il s'agit, puisque certains patients viennent se faire soigner ici. Et puis, au travers de ce groupe-là, nous faisons aussi de la recherche. Ensemble, nous avons des recherches qui ont été publiées, des qualités. Je vais citer par exemple VavAfrique, qui a été fait dans cette étude multicentrique dans le cadre de ce groupe cardiologie tropicale. Et puis, nous avons aussi un journal de public, un journal d'expression qui s'appelle Cardiologie tropicale, justement, où les jeunes cardiologues de notre espace publient pour faire leur graduation.
Alors, l'autre coprésident, c'est vous, docteur Jean-Jacques Monsuez. Comment expliquer l'existence de ce groupe dédié à la santé cardiaque en milieu tropical au sein de votre société savante?
C'est assez simple, c'est quelque chose qui existe depuis quasiment plus de 30 ans. C'est en effet le professeur Bertrand qui avait créé ça. L'idée générale était que il y a peu de Français qui connaissent un peu l'Afrique et que dans notre congrès, nous avons 6 000 ou 7 000 participants cette année. Il y a quand même 15% de gens qui viennent d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Donc, ils sont liés à nous. Et le groupe, il a 2 buts, un peu des buts d'amitié qu'on a entre nous, que vous avez remarqué. On fait le même métier. Et puis, il y a un deuxième but, c'est que les Français connaissent un petit peu ce qui se passe dans la francophonie et en Afrique. Et donc, c'est vrai qu'on s'arrange toujours pour qu'il y ait beaucoup de communication faite par les travaux scientifiques de nos collègues africains et que souvent, les salles sont pleines. Et donc, ce groupe, ça fait un peu bizarre comme terme, mais ça correspond en fait à des partenariats qu'on a, aussi bien pour les formations continues que pour des études coopératives ensemble.
Partage de connaissances, retour d'expérience. Ouais. Tout à l'heure, vous disiez, professeur Cramaux, qu'en termes d'épidémiologie, il y avait parfois des spécificités locales ou régionales. On va reparler des maladies des valves, mais il y a d'autres spécificités. On pense notamment à l'amylose cardiaque.
Oui, l'amylose cardiaque, mais pas... Je dirais, déjà, il y a l'instrument diagnostique. Quand on parle d'amylose, c'est l'IRM cardiaque. Et dans la plupart des centres africains, on ne trouve pas d'IRM cardiaque. Mais une spécificité que je dirais qui nous appartient à nous, c'est les valvulopathies qui sont d'origine rhumatismale, mais c'est aussi l'endocardie par état chronique, des choses qui n'existent pas actuellement ici en Occident.
Pourquoi c'est un facteur de développement?
Peut-être, mais c'est des malades. Pour l'endocardie pariétale chronique en particulier, c'est des facteurs étiologiques. On n'a pas défini de façon claire l'origine, les bases étiologiques. Pour l'instant, on a des hypothèses. Parce qu'en Côte d'Ivoire, justement en particulier, on a vu que c'est les enfants, parce qu'en général, c'est des enfants, ils viennent de la même région. Au début, il avait été accusé de la bilharziose. Après, on n'a pas pensé à la banane plantain. Donc, il y a eu des hypothèses diagnostiques. Mais autre chose que nous observons ces temps-ci, c'est l'incidence quand même a baissé. On en voit moins. Dans le temps, en tout cas au temps de notre maître, le professeur Edmond Bertrand, c'était...
Ça veut dire qu'on met en cause des facteurs environnementaux, des habitudes de vie.
Tout à fait. Mais clairement identifié, je dirais, on n'a pas.
On n'a pas encore identifié. Mais c'est vrai que ça peut arriver qu'il y ait certaines maladies qui soient liées à des habitudes de vie. On l'a vu notamment en Côte d'Ivoire avec les problèmes de thyroïde par rapport à la consommation de manioc, c'est
ça? Tout à fait. Ouais. Dans la région de l'Ouest, en particulièrement.
Vous voulez rajouter quelque chose, docteur Monsuez?
Non, c'était une question pour Khaled. Est-ce que vous envoyez des fibroses endomyocardiques en Mauritanie? Non,
non, pas beaucoup. Non. Moi, ce que je vois et que je n'ai pas d'explication, je vois beaucoup d'anévrisme de l'aorte chez des jeunes et des moins jeunes. Et franchement, je n'ai pas d'explication. Parfois, c'est vrai que parfois, ils sont hypertendus, mais parfois, ils sont trop jeunes. Je pense aux B7, je pense à beaucoup de choses. On a cherché, on a trouvé une petite série de B7 de 13 malades. Mais on voit beaucoup.
Maladie de B7, il faut le dire, c'est une maladie auto-immune, multisystémique, avec plus de représentations, notamment dans le Maghreb et l'espace nord-africain.
Tout à fait. Donc on était censé être un peu à l'abri de cette maladie, mais elle existe. Peut-être de la syphilis, j'ai pensé à la syphilis tertiaire. Ce que je rejoins, ce que disait mon ami professeur Cramaux, c'est que nous avons des spécificités et nous avons besoin d'étudier ces spécificités. Nous avons ces pathologies-là qui ne sont pas forcément décrites dans les livres de pathologie. Quand on cherche un anévrisme à 10 cm chez un enfant de 14 ans, et que franchement, bien sûr, on a actuellement avec les moyens de communication, on envoie les photos à nos amis un peu partout en Europe et même au Moyen-Orient. Donc personne ne sait de quoi il s'agit. On n'a pas d'étiologie. Et le problème, c'est que nous n'avons pas de services compétents d'anatomopathologie qui peuvent nous dire exactement de quoi il s'agit. Et donc moi, cette spécificité-là, et bien sûr, on voit beaucoup d'endocardites. Ça aussi, je ne sais pas si ça a une explication. C'est vrai qu'on a beaucoup de valvulopathie, mais on voit beaucoup de... Le dernier cas très bizarre que j'ai vu, c'est un nourrisson de 1 an avec un énorme anévrisme de 10 cm du tronc céliac.
Donc là, c'est spécialisé, hein. C'est vraiment pour les spécialistes en cardiologie. On ne va pas perdre nos auditeurs.
Je vais dire tout simplement...
Ça veut dire que c'est rarissime.
C'est rarissime, c'est un gros anévrisme, c'est une grosse artère de 10 cm chez un nourrisson de 9 mois à 1 an dans le ventre. Vraiment aucune explication. Il a été traité avec succès par radiologie interventionnelle, ce qui est aussi nouveau. Nous avons un jeune radiologue très brillant qui l'a traité. Il est complètement guéri, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. On n'a jamais su de quoi il s'agit.
Alors, on parle d'accès aux soins pendant cette émission, professeur Khaled Boy. C'est vrai que certains chiffres valent mieux que de longs discours. Combien de cardiologues, on va le rappeler, vous avez cité ces chiffres, mais combien de cardiologues en Mauritanie et de chirurgiens cardiovasculaires?
En Mauritanie, à peu près, on doit être aux alentours de 70-80 cardiologues. Ils sont essentiellement concentrés à Nouakchott et particulièrement au centre de cardiologie, à peu près 50. et on est 6 chirurgiens sur place.
Même question à vous, hein, professeur Cramaux. Combien de cardiologues, combien de chirurgiens cardiaques?
Oui, les cardiologues, je connais le nombre exact, 148 cardiologues qui sont inscrits à la Société ivoirienne des cardiologies. Les chirurgiens cardiaques et cardiovasculaires, ils sont une bonne dizaine.
Et dans les écoles, les facs de médecine, il y a quelque chose qui laisse entrevoir une augmentation de ces effectifs de spécialistes?
Mais oui, bien sûr. Justement, on est en Côte d'Ivoire, actuellement, nos gouvernants veulent créer des nouvelles écoles de médecine. Donc, il est question qu'il y ait une université qui va faire la médecine aussi à San Pedro. C'est une ville au sud,
sud-ouest,
sur la côte. Et il y a Korogo, ainsi que Bondoukou. Donc, on a besoin qu'il y ait justement des formateurs dans ces différentes villes pour que le nombre de médecins soit augmenté. Il a été fait pareil pour les infirmiers. Là, sur les dernières années, il a été triplé le nombre de médecins, d'infirmiers en formation. Parce qu'il y a un déficit, comme vous le savez, partout dans le monde et particulièrement chez nous. Donc, pour combler ce déficit, il faut former. Et c'est dans cette perspective que justement, parlant tout à l'heure de Boaké, c'est une belle initiative pour nous. Il faut commencer bien quelque part. Et puis, après, suivra, en termes d'effectifs, le personnel viendra pour que l'activité puisse se développer.
Cet effort de décentralisation. On va poursuivre notre échange, prendre des auditeurs en ligne juste après Louane. Donne-moi ton cœur dans Priorité Santé sur RFI.
Donne-moi ton cœur, donne-moi et le reste. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs, chagrin et le reste. J'imagine un monde céleste, où personne ne sort, non, où personne ne reste. J'imagine un cri, des cris dans la nuit. J'imagine tellement de choses de toi, c'est peut-être toi que je suis des fois. J'imagine un nid de récits, de mots tristes. J'imagine un lit, une insomnie complice. J'imagine une moi qui se noie dans tes vices. Sans foi ni loi, dans les mailles je me glisse. J'imagine un homme, une femme, une nourrice. Qui ne voit qu'un clone de moi dans mes disques. Un gros tintamarre dans mon âme novice. Je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es. Je veux revoir le monde de l'autre fois. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir l'ombre de l'autre toi. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir le monde de l'autre fois. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir en toi tout ce que je suis pas. Dis-moi qui tu es, mais surtout, s'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es.
Cardiologie en Afrique subsaharienne dans Priorité Santé sur RFI avec deux spécialistes venus du continent, co-président du groupe de cardiologie tropicale de la Société française de cardiologie. Alors on est toujours avec le professeur Kouadio Eloge Cramaux, directeur général de l'Institut de cardiologie d'Abidjan en Côte d'Ivoire, professeur Khaled Boy, chef du service de chirurgie cardiovasculaire au Centre national de cardiologie de Nouakchott en Mauritanie, et docteur Jean-Jacques Monsuez, cardiologue à l'hôpital René Muret de Sevran. Docteur Monsuez, lors de ces 35e journées, quels sont les temps forts précisément en termes de communication sur ce sujet de la cardiologie en Afrique?
Alors, on a plusieurs sessions. D'abord, il y a une session dédiée à chaque société d'Afrique du Nord, une session spécifique Algérie, une spécifique Tunisie et Maroc. Et chacune de ces sessions est élaborée en partenariat avec les sociétés concernées. Il y a également une session spécifique sur l'Afrique subsaharienne qui s'intitule « Spécificité en Afrique subsaharienne ». Alors nous y avons mis un sujet sur la drépanocytose, un sujet sur les médicaments, les difficultés pour les médicaments qui sont importantes en Afrique et qui nécessitent à nos collègues de bien connaître et des adaptations. Et puis un troisième sujet sur les myocardites. Ces sujets-là sont mal connus des Français. C'était l'idée qu'on avait de les aider à comprendre un peu ce qui se passe ailleurs que dans le périphérique.
Alors, on va tout de suite prendre des auditeurs en ligne. On part d'abord pour le Gabon.
RFI à Libreville, 104 FM.
En ligne avec nous, c'est Fabrice. Fabrice, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 38 ans. Vous avez découvert assez récemment que vous aviez un problème cardiaque. Dans quelles circonstances, Fabrice, s'il vous plaît ?
En fait, je devais passer un stage. Bon, c'était un stage où il fallait faire du sport. En allant faire des examens à l'hôpital, le médecin découvre que j'ai un problème cardiaque, que la quantité de sang qui devait rentrer dans mon cœur n'était pas normale, elle était insuffisante. Donc, ils m'ont demandé de faire des examens approfondis.
Et Fabrice, quel diagnostic a été posé alors ?
Bon, ils ont constaté que j'avais un problème cardiaque, j'avais une hyper-excitabilité ventriculaire sévère, fait d'extrasystole ventriculaire, monophore.
Donc ça, ce sont des termes techniques médicaux très spécialisés. On vous a parlé de cardiomyopathie dilatée, c'est ça ?
Oui, oui.
C'est ça. Alors, on a trois cardiologues. Je vais donner la parole à l'un d'entre eux, peut-être pour expliquer, pour définir ce que c'est, cette pathologie. Donc, je me tourne vers vous, professeur Cramo. Petite explication très brève.
Oui, oui. C'est un corps qui est dilaté, donc il est plus gros qu'il ne devait être, et puis qui ne se contracte pas bien, donc il ne pompe pas bien. Parce que le rôle du cœur, c'est de pomper le sang pour l'envoyer dans les artères. Et donc, chez lui, son cœur il est dilaté, donc on peut l'appeler le gros cœur, mais qui bouge peu. Et il y a de la fibrose. Et c'est cette fibrose-là qui est à l'origine de troubles de l'excitabilité. Ce qu'on appelle troubles de l'excitabilité, c'est qu'il y a des battements irréguliers du cœur.
La taille du cœur, elle évolue avec le temps ou c'est comme ça d'emblée ?
Non. C'est la maladie qui fait que le cœur se dilate. Et donc, plusieurs origines. Tout à l'heure, vous allez parler d'amylose. Il y a plusieurs causes qui expliquent que le cœur se dilate, qui deviennent paresseux.
D'accord. On vous retrouve à Libreville, Fabrice. Aujourd'hui, qu'est-ce que cette maladie vous empêche de faire ?
Elle m'empêche de faire le sport, puisque j'ai travaillé dans une unité où il fallait faire du sport de manière intense. Elle m'a même empêché de participer à un stage. Vous voyez un peu ce que ça a causé dans ma carrière.
Vous étiez militaire, c'est ça ?
Oui, oui.
Et aujourd'hui, qui suit votre santé cardiaque, Fabrice ?
Bon, avant, j'étais dans une structure publique, mais j'ai plus que dans les structures publiques. Pour rencontrer le spécialiste, il faut attendre 3 mois. Vous voyez, 3 mois, la maladie ne met pas pause pour attendre le spécialiste. J'étais obligé de m'orienter ailleurs. Je suis allé dans une clinique privée.
Et du coup, dans le privé, comment vous faites face à ces frais ? Comment vous faites ?
Dans le privé, c'est coûteux. Tout, vous payez tout. Je paye tout. Surtout qu'au public, bon, j'ai une assurance maladie, la CNAMGS que tous les Gabonais utilisent actuellement. Au public, elle prenait en compte tous mes examens. Or, au privé, ce n'est pas ça le cas. Au privé, on est obligé de payer des examens. Tout est payant. Mais étant donné qu'on veut, le souhait, c'est de guérir, on est obligé de faire avec.
Bah, on comprend bien. Cet auditeur du Gabon, Fabrice, confronté à cette question des frais de santé, une question qui vous préoccupe particulièrement, hein, professeur Cramo, vous, en Côte d'Ivoire.
Oui, c'est une problématique qui s'étend à toutes nos régions. Mais en Côte d'Ivoire, en tout cas, ces derniers moments, des efforts sont en train d'être faits. Notre ministre de tutelle, le ministre Demba Pierre, a conduit, en tout cas avec le reste de son équipe, ce qu'on appelle la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Mais en tout cas, il est question que l'essentiel des maladies en Côte d'Ivoire soit couvert. Ça a commencé par les maladies transmissibles. le paludisme et autres, parce que c'est la grande échelle, c'est le gros nombre. Et tout récemment, l'hypertension artérielle et puis le diabète viennent d'être pris en compte dans le panier de soins de la caisse d'assurance maladie. Donc je pense que ces efforts vont permettre à terme de prendre en charge l'essentiel des maladies. On peut comprendre que quand on commence, il ne faut pas aller avec tout au même moment.
Et je pense mais professeur Cramon, moi je vous dis très concrètement, quand quelqu'un a une urgence cardiaque et va dans votre centre, est-ce qu'il doit payer ?
La personne est prise en charge d'abord, ça je tiens à le dire.
Ça c'est essentiel.
D'abord, et je vais vous dire un cas anecdotique, c'est le cas d'une jeune dame qui vend deux ambulantes, à Trèsjuif, vend deux ambulantes des eaux d'Orange, et qui a fait une crise cardiaque, arrivée à l'Institut de cardiologie, elle a eu droit à son angioplastie primaire, fallait payer à la sortie, 2,5 millions, parce que les stents coronariens ça coûte cher. Et le séjour aux soins intensifs. Mais elle n'avait pas cet argent. On l'a laissé sortir. Et justement, avant de venir, je suis allé rencontrer mon ministre pour lui poser ce type de problème. Voilà, nous prenons en charge les patients. À la fin, ils ne peuvent pas payer, alors que les intrants que nous utilisons, qui sont les dispositifs médicaux qui nous ont été mis en place en dépôt-vente, il faut bien qu'on assure le recouvrement.
Ça veut dire qu'il faut créer des caisses de solidarité.
Des solidarités. Donc le ministre a eu une bonne écoute à cela et il a décidé de nous accompagner. Donc je peux vous dire que des efforts sont faits.
Il faut continuer d'avancer dans ce sens.
Merci
professeur
beaucoup.
Boy, cette question du financement dans un pays comme la Mauritanie, est-ce que vous avez le sentiment que parfois certains sont contraints de renoncer aux soins ?
Oui, malheureusement, mais il faut dire la vérité que c'est de plus en plus rare. 30% seulement des Mauritaniens ont une assurance maladie. Ceci dit, le gouvernement mauritanien a fait beaucoup d'efforts ces dernières années. On a une agence nationale pour la l'agence nationale pour l'entraide ou quelque chose de comme ça, qui quand même a pris 600 000 personnes en 4 ans, ce qui est beaucoup à l'échelle mauritanienne, puisque nous sommes seulement 5 millions d'habitants. Et actuellement, les urgences cardiaques sont prises en charge, les urgences vitales sont prises en charge immédiatement. Quel que soit le prix, ils sont pris en charge. Après, c'est vrai qu'on demande aux malades de rembourser, de contribuer, parfois 50%, 30%. Mais de toute façon, ça ne l'empêche pas de se faire soigner. Le problème, c'est quand le malade n'est pas urgent, il n'y a pas d'urgence vitale immédiatement. Prenons l'exemple des valvulopathies. Le malade vient souvent pour de l'insuffisance cardiaque. Il a besoin d'un remplacement valvulaire. Alors, pauvre, il va traîner. Bon, bien que même là, l'État prend en charge 50%. Et malgré ça, 2500 euros, il ne peut pas le payer.
On remercie en tout cas Fabrice pour son appel de Libreville et son témoignage. On a un autre auditeur en ligne. Au Sénégal, Dakar, on retrouve Ibrahima. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Caroline.
Alors vous avez 71 ans, vous avez consulté en 2015 suite à une douleur dans la poitrine. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, il s'est passé que après le boulot, parce que moi j'étais fonctionnaire international, après le boulot, je voulais prier. Après les ablutions, j'ai senti que ça avait des picotements au niveau de la poitrine. Bon, je suis allé prendre des morphines, je suis revenu, ça a continué. Alors j'ai consulté le centre hospitalier universitaire qui malheureusement, en son temps, en 2015, n'avait pas de cardio. Il y avait des cardio, mais il n'y avait pas peut-être de centre de cardio, les équipements nécessaires. Alors je me suis débrouillé par l'intermédiaire de beaucoup d'amis qui sont en France. D'autres ici, ils m'ont passé le nom d'un hôpital et un docteur qui avait fait une intervention à mon nom. Alors, j'ai essayé de faire les formalités au niveau de l'institution. Bon, ça traînait un peu. Alors, j'ai pris le billet, je suis parti moi-même le faire.
Et vous avez eu quel diagnostic finalement quand vous êtes arrivé en France ?
J'avais les artères coronaires obstruées.
Et vous avez été opéré ?
J'ai été opéré, on m'a fait un double pontage.
Donc, vous avez été opéré en France. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes suivi par un spécialiste à Dakar ?
Oui, j'ai un cardio qui est devenu même un ami, un frère. Je sais qu'ils ont beaucoup fait à Dakar en matière de santé de 2015 à maintenant. Parce qu'il y a des hôpitaux qui sont à Dakar même, dans la capitale. Et il y a des équipements. Le problème, c'est le coût. Vous savez, le coût de cette maladie est trop cher.
Ben oui, parce que évidemment, il y a tout ce suivi qui est extrêmement onéreux. Professeur Cramo, une nouvelle fois, Ibrahima qui pose la question, qui pose le problème crucial du financement de ces soins. Mais ce qu'on entend aussi à travers son témoignage, et vous êtes plusieurs à en témoigner, c'est aussi une amélioration quand même de l'offre de soins.
Tout à fait. Tout à fait. Et comme il a dit, lui-même il a vu à Dakar, c'est pareil à Abidjan, l'offre de soins s'est améliorée. Aujourd'hui, en tout cas à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, l'essentiel des métiers en cardiologie se fait. Donc je dirais pour une prise en charge d'une maladie cardiovasculaire, 90% peut se faire dans le centre qui est l'Institut de cardiologie d'Abidjan.
On va dire un petit peu commentaire en demi-teinte, Khaled Boy. Oui. Des progrès importants, mais beaucoup reste à faire.
C'est bien résumé. On vient de loin, on fait beaucoup de choses actuellement, mais il y a beaucoup de choses aussi à faire, notamment en termes d'accès et d'équité. Parce que nous avons un seul centre, il est déjà à la périphérie de la capitale, donc il n'est pas à la portée de tout le monde. Mais on arrive à prendre en charge. Mais le problème déjà, c'est le diagnostic. Quelqu'un comme Ibrahima peut se faire suivre pendant un ou deux mois pour des maux d'estomac chez nous.
Avant qu'on aboutisse au bon diagnostic.
Oui, malheureusement. Donc il faudrait qu'il voit les bons médecins, il faudrait qu'il voit les bonnes structures pour qu'il soit diagnostiqué. Bon, ça s'améliore heureusement. Mais on est encore, il y a des choses à faire.
Tour de table pour le mot de la fin, on l'a dit, hein, former davantage de spécialistes, décentraliser les spécialités cardiaques, améliorer les plateaux techniques, travailler sur une santé accessible à tous les budgets, y compris en post-opératoire, en chirurgie du cœur. Tour de table, docteur Jean-Jacques Monsuez, en quelques mots, faire passer un dernier message sur cette santé cardiaque en milieu tropical et en Afrique subsaharienne.
Il reste beaucoup à faire, mais il y a beaucoup d'enthousiasme et ça se fera.
Bon, bah écoutez, professeur Cramaux, vous aussi le mot de la fin.
Oui, merci beaucoup Caroline. Mon mot de la fin, c'est d'abord que chez nous, en tout cas en Côte d'Ivoire, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits avec ce que j'appelle tantôt les PRES, les pôles régionaux d'excellence en santé. En Côte d'Ivoire, il y a des cardiologues aujourd'hui partout. On les a rapprochés des populations et donc je voulais féliciter nos autorités pour cela. Mais il reste aux populations d'aller vers ces spécialistes-là quand le besoin se fait sentir, qu'ils évitent l'automédication et qu'ils fréquentent les différents centres de santé. Pour l'instant, l'assurance maladie universelle est mise en place. Plus de 18 millions d'habitants en Côte d'Ivoire ont souscrit. Le champ n'est pas étendu à toutes les maladies, mais je vais utiliser un terme de chez nous qu'on appelle tontine. Donc, qu'il considère que c'est une tontine sociale, une tontine pour la maladie. Aujourd'hui, on n'est pas malade, mais il faut cotiser pour que quand demain on tombe malade, l'argent soit utilisé pour se prendre en charge.
La prévoyance.
Que tout le monde adhère. Et puis, à la fin, toutes les maladies pourront être prises en charge par cette caisse-là.
C'est vrai qu'on n'a pas suffisamment parlé de prévention et de sensibilisation dans cette émission, mais c'est vrai qu'aussi on peut faire beaucoup plus, professeur Khaled Boy, en matière d'information et de campagne publique pour justement que les personnes évitent d'arriver en urgence cardiaque chez vous.
Tout à fait. Je pense que vraiment, il faut qu'on mette l'accent sur la prévention. Parce qu'actuellement, c'est bon, on est tout content, c'est faisable chez nous, on peut traiter des gens. Mais l'idéal, ce n'est pas vraiment de traiter les gens. L'idéal, c'est de soigner ces gens-là, d'éviter la maladie à ces gens-là. Et donc, il faut vraiment réactiver les programmes nationaux de prévention, notamment le programme national de prévention de rhumatisme articulaire, mais aussi l'activité physique dans le milieu scolaire, la médecine scolaire globalement, le programme de prévention du diabète, des maladies non transmissibles en général. Ça, c'est des choses à faire. Ce que je voudrais aussi dire vers la fin, c'est qu'aujourd'hui, on sait que ces choses-là peuvent se faire en Afrique. Le centre d'où je viens est vraiment un exemple d'excellence dans la région. Et ce qu'il faudrait faire, c'est de faire plus de formations, plus d'échanges sud-sud, puisque actuellement, nous, on est prêts, et je pense qu'on commence déjà à recevoir des infirmiers, de recevoir des résidents, des médecins, des jeunes cathétériseurs qui viennent de l'Afrique de l'Ouest et qui peuvent se former, qui peuvent avoir accès aux patients et de toucher et de travailler plus facilement dans nos centres qu'ailleurs.
Et ça permet d'éviter aussi des frais de transport et toutes les complications liées au visa. Et là, il faut aussi en parler.
Tout à fait, tout à fait. Et ce n'est pas que seulement d'ailleurs pour le professionnel. On reçoit même des pathologies parce qu'il nous arrive par exemple d'opérer des pathologies qui ne sont pas opérables dans d'autres centres de la région, notamment les urgences aortiques, les dissections. On en reçoit à partir du Mali, du Sénégal et même d'ailleurs. Et donc, c'est un appel à la coopération parce que nous aussi, on envoie aussi dans ces pays-là pour d'autres spécialités.
Merci à tous les trois d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. On va retrouver dans quelques instants la sexologue Noël Caillard. Ce sera juste après Azake et Wizkid avec ce titre MMS sur RFI. Oh, your love, oh, your love.
What's up on the time? What's up on the time? When I just did try, when I just did try. When I drop a song, I go need to dance. I do a kakuru kere, I dip in my price. Then I find the sound among all the sounds. I no get a name, I no sing a sound. Sound, sound, Mr. Money sound. I want the precise, I want the precise.
I be like militant, military, military, my chop my head. Vigilant, vigilant, forgive me, Lord, I dey on your peace. Cemetery, cemetery, people, we don't die, people, cemetery.
Life is not easy, I know it's not easy, you guys do the thing I'm easy.
So funny, you poor funny.
For my city gone. You know we run from who you are. And waiting go be man is cast in stone. Modubelo long power salu. Mo wari wari titi mo de sham you. Adubelo long to come yo. Kade ma jeun tali she kade ma yo. Oh yo long, oh yo long. My mama leave me, yeah, you know long. Lost myself and I found my purpose. Yeah, every day I know that I am blessed. So tonight because you love me. Yeah, they got your own new nothing man, no face. Vibe today.
Et l'on va parler santé sexuelle maintenant dans Priorité Santé. On vous retrouve pour cela, Noël Caillard-Si, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sexologue, onco-sexologue, sage-femme, avec un sujet aussi important qu'intéressant que vous avez choisi d'aborder aujourd'hui. Il s'agit de l'éducation à la sexualité. Alors bien sûr, Noël, cela peut concerner les enfants, mais pas seulement.
Tout à fait. L'éducation à la sexualité s'adresse à l'individu tout au long de sa vie, et justement en fonction de l'éducation qu'il a eue, de son environnement, de ses expériences, heureuses ou malheureuses, si on peut parler ainsi, il va se construire et il va réajuster ses attitudes et aussi ses orientations et ses choix.
Une question simple sur cette éducation à la sexualité, ce sont les supports. Comment est-ce qu'on s'éduque ? Sur quelle base ?
On s'éduque face aux éléments qu'on nous propose et dans l'environnement dans lequel on évolue. L'éducation à la sexualité ne repose pas uniquement sur un enseignement scolaire. Le plus souvent, c'est au collège. En classe de 5e, on commence à donner ses premiers éléments de réponse, hein, on va dire aux collégiens. Pour autant, ce n'est pas la principale source d'apprentissage et d'information.
Alors évidemment, quand on parle d'éducation à la sexualité, il va y avoir une connaissance générale, mais aussi une démarche pour être capable d'évaluer les situations en toute connaissance de cause et en responsabilité.
Tout à fait, parce que l'éducation à la sexualité, on ne le répète pas assez souvent, c'est aussi une démarche collective, une démarche sociale collective, où d'un côté, bien évidemment, il y aura cet apprentissage de son corps, comment son corps évolue, pour ce qui est des jeunes filles, l'apparition des règles, l'anatomie, de même pour les jeunes hommes, les premières érections matinales. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi cette relation à l'autre avec le respect de soi-même, mais aussi des envies de l'autre.
Et bien évidemment, Noël Caillard-Si, il y a tout ce qui concerne dans cette éducation à la sexualité, la prévention des risques en termes de santé.
Ce qui est important, c'est qu'il faut que dans cette éducation de façon globale, nous ne véhiculons pas une information négative de la sexualité. Souvent, on entend « attention pour ne pas tomber enceinte »,« attention pour ne pas attraper une maladie sexuellement transmissible ». Il faut qu'on ait une démarche positive pour que la sexualité soit bien vécue. On a bien compris, Noël Caillard-Sy, ne pas faire peur, mais en même temps, donner énormément d'informations, parce qu'en termes de santé et de sexualité, il y a vraiment beaucoup à apprendre.
Il y a beaucoup à apprendre avec une adaptation de l'information en fonction de l'âge de l'individu, mais aussi de sa situation sur le moment. La contraception va être abordée lorsque les premiers rapports sexuels, même voire en amont, va être un questionnement chez le jeune homme comme chez la jeune fille, hein, parce que ce n'est pas la contraception, est un sujet pour les deux sexes. De même que pour ce qui est des maladies sexuellement transmissibles, il faudra aborder cette question-là en amont avec l'intérêt du préservatif pour les maladies, de même qu'il y a un double aspect aussi pour la contraception. Il y a toute cette communication qui doit être adaptée et répétée.
Répétez également tout le volet sur la prévention des violences sexuelles.
Violences sexuelles, c'est-à-dire la relation avec l'autre, la relation avec son corps, le respect de ses choix, le respect de mes propres choix, pour que chacun puisse évoluer dans une relation intime préservée.
Ça permet aussi tout ça de lutter contre un certain nombre de fausses croyances.
Le manque d'informations est un sol fertile pour imaginer des choses qui sont fausses. C'est un terreau, justement, où les individus ont l'impression que tout est possible à n'importe quel prix, et ce n'est pas le cas.
L'éducation à la sexualité, dans quel cadre, hein, la question se pose. Tout à l'heure, on a dit à l'école, mais pas seulement. Et évidemment, l'accès à ces informations, ça ne va pas être la même chose partout dans le monde, notamment en fonction des lieux et en fonction des cultures.
Oui, parce que les moyens et les informations disponibles sont étroitement liés au lieu où évolue la personne. Donc je pense qu'il faut avoir une adaptabilité de l'information, mais qui est la même pour tous, in fine.
Y compris dans le cadre familial, évidemment, on ne va pas parler de cette sexualité de la même façon dans toutes les familles.
Dans toutes les familles, de même que en fonction de l'âge. La sexualité, ce n'est pas uniquement l'acte sexuel, c'est le rapport avec son corps, c'est connaître son corps. Donc c'est vrai que l'information que l'on va dispenser à l'école maternelle, on voit que dans certains pays, on commence déjà à initier ces informations et cet apprentissage, va être complètement différent à un jeune adulte qui a déjà démarré une sexualité.
Un dernier point, Noël Caillard-Sy, parce que certains peuvent se poser la question avec peut-être une mise en garde à celles et ceux qui pourraient penser que la pornographie, le visionnage de films pornographiques ou vidéos, c'est considéré comme un vecteur d'éducation à la sexualité. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ?
Attention. Tout simplement, attention, parce que c'est un film, ce n'est pas la réalité. Et on se rend bien compte que même si ça peut susciter, du point de vue physique, une excitabilité, pour autant, les actes, les comportements qui sont décrits et enregistrés lors d'un film pornographique, ce n'est pas la relation respectueuse que l'on vit au quotidien.
Merci beaucoup Noël Caillard-Sy. On vous retrouvera très bientôt pour une émission avec toutes les questions en direct des auditrices et des auditeurs. Et vous retrouvez Priorité Santé à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. Ophélie Lassen, Louise Kaledek, Talim Pouo, Didier Bleu à la réalisation. Demain dans Priorité Santé, émission Questions de femmes, nous vous proposons de réentendre l'émission que nous avions consacrée à la fatigue, un symptôme à ne pas négliger. On se donne rendez-vous à 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.